Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dienaba Diop, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue aux auditeurs de Radio Orient qui depuis hier nous écoutent en DAB+ à Dijon, Avignon, Marseille, Toulon, Cannes et Nice. Alors Dienaba Diop, lundi soir, Anne Hidalgo s'est adressée aux militants socialistes lors d'une émission sur le Facebook Live et la chaîne YouTube du Parti Socialiste. Jeudi, les militants doivent choisir entre Stéphane Le Foll et Anne Hidalgo pour représenter les couleurs du PS à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce processus? Pourquoi ne pas avoir organisé une primaire comme lors des deux dernières élections présidentielles?
Eh bien, comme vous l'avez rappelé, il s'agit d'une désignation en fait interne à notre parti pour choisir le ou la candidate qui portera les couleurs du Parti Socialiste lors de cette élection présidentielle. Et je crois qu'il était important de remettre les militants au cœur de ce processus pour qu'ils soient ceux qui, in fine, choisissent celle ou celui qui nous représentera dans cette élection cruciale. Il faut rappeler le contexte. En 2017, tout le monde se rappelle de ce résultat très difficile au soir du premier tour des élections présidentielles, puisque nous finissions à 6%, du revers terrible qui a suivi avec les législatives de 2017. Depuis, nous avons repris des couleurs, les Françaises et les Français, notamment dans les mairies, mais pas seulement, aussi dans les départements et dans nos régions, on nous a refait confiance, nous voulions leur dire que nous avons entendu ces demandes, cette confiance renouvelée et que nous voulions avoir une personne qui soit en capacité de porter notre projet de justice sociale et d'écologie.
Alors presque tous les dirigeants socialistes soutiennent la candidature d'Anne Hidalgo, j'imagine que c'est votre cas également. Il n'y a pas de suspense, ce sera donc la maire de Paris qui obtiendra l'investiture. Pour quelle raison est-elle selon vous la plus à même de succéder à Emmanuel Macron en avril 2022?
Je crois que nous sommes dans un moment où les Françaises et les Français ont besoin d'avoir une femme qui connaît leur quotidien, une femme qui incarne aussi ce parcours de méritocratie au sein de la République. Anne Hidalgo, c'est une enfant qui arrive très jeune en France, qui choisit d'être française, elle l'explique dans son livre. C'est aussi une femme qui doit tout à l'école de la République, puisque grâce à ce parcours d'excellence, elle finira quand même inspecteur du travail. C'est une jeune femme qui a tout obtenu grâce justement au travail, et elle est reconnaissante à la République pour cela, et elle veut lui rendre justement de ce qu'elle a obtenu. Je crois qu'elle est très différente d'Emmanuel Macron en cela, c'est-à-dire que c'est une destinée française qui n'est pas issue du sérail, c'est quelqu'un qui est arrivé là où elle en est grâce au travail, qui a déjà une stature internationale, qui est reconnue par ses pairs, et donc nous pensons très sincèrement que Anne Hidalgo est la personne la plus à même de porter une candidature de gauche, une candidature qui défendra le progrès social, qui va défendre aussi justement la transition écologique nécessaire. Et donc, il faut quelqu'un qui soit à l'inverse d'Emmanuel Macron, quelqu'un qui va écouter les Françaises et les Français et qui va d'abord se charger de améliorer leur quotidien.
Dienaba Diop, Anne Hidalgo veut refonder l'éducation et la santé. Elle estime aussi que la question du travail doit redevenir une question centrale. Je pense aux travailleurs ubérisés, aux femmes de chambre dans les hôtels. Ça a été des combats qui ont été portés ces derniers mois. Il faut, par exemple, augmenter les salaires, baisser le temps de travail.
Sur l'augmentation des salaires, elle a fait le choix de mettre l'éducation au cœur de son entrée en campagne. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de remettre ces questions fondamentales qui sont celles de l'école et celles de l'éducation au cœur du débat présidentiel. Dans ce climat complètement nauséabond, eh bien, Anne Hidalgo préfère s'occuper de l'avenir des enfants et moins de leur prénom. Et je crois que ça, c'est important. Il faut évidemment augmenter les salaires. Si on prend l'exemple des enseignants, il faut savoir que le salaire des enseignants français est 20e. Sur l'échelle de l'OCDE. Donc, ce n'est pas juste une lubie. Et d'ailleurs, même le ministre de l'Éducation nationale reconnaissait que nous n'étions pas à la hauteur sur ce point. Il faut protéger tous ces travailleurs, tous ces premiers de corvée qui ont été les plus exposés pendant la pandémie. Je crois que cette dernière crise sanitaire a été un révélateur du fait que nous avons besoin d'un État protecteur. Nous avons aussi besoin de redistribuer le travail, de mieux le rémunérer. Et effectivement, il faut aussi envisager, pourquoi pas, de baisser ce temps de travail.
Vous qui êtes enseignante, Dienaba Diop, est-ce qu'il faut garder la mesure phare d'Emmanuel Macron et de Jean-Michel Blanquer, le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire? Et est-ce que la proposition d'Anne Hidalgo de doubler les salaires des enseignants sur un quinquennat vous paraît faisable compte tenu des finances de l'État?
Eh bien, moi, en tant qu'enseignante, je ne peux pas être défavorable à la mesure d'Emmanuel Macron qui était de dédoubler les classes dans les zones d'éducation prioritaire. Il faut savoir que ce dédoublement s'est fait au détriment aussi d'autres mesures, comme celle qui était plus de maîtres que de classes, qui permettait à nos enseignants, surtout dans le premier degré, de bénéficier justement de l'appui d'un de leurs collègues sur des difficultés bien précises de nos élèves. Il faut savoir aussi que ce dédoublement des classes est accompagné par une restriction et par une diminution assez importante de professeurs de postes d'enseignants, notamment dans le second degré, et plus précisément depuis la réforme du baccalauréat dans l'enseignement professionnel. Donc je crois que tout ce qui permet d'accompagner au mieux nos jeunes et d'avoir un système éducatif qui tient cette promesse républicaine qui est celle de pouvoir justement avoir un avenir et de pouvoir se former correctement, est bonne à tenir. Maintenant, il faudra remettre des postes d'enseignants parce qu'ils ont été supprimés. Et puis, il faut aussi retravailler tout ce travail autour de la question de l'éducation à la citoyenneté et aussi de l'apprentissage des fondamentaux.
Dienaba Diop, Anne Hidalgo a mis en valeur l'économie sociale et solidaire, le secteur du soin à la personne, les énergies renouvelables. Ce sont des secteurs qui peuvent créer des millions d'emplois, ce sont des secteurs qu'on peut développer.
Évidemment, je vous le disais, la crise sanitaire a été aussi un miroir grossissant. Les emplois qui ont le mieux tenu, ce sont les emplois issus de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont non délocalisables et parce qu'ils permettent aux personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi de pouvoir justement retrouver ce chemin. Moi, je crois que nous avons beaucoup à apprendre, notamment des pays émergents ou des pays dits en voie de développement, qui, eux, justement, s'appuient sur l'économie sociale et solidaire. Nos concitoyens ont de plus en plus besoin d'avoir des circuits courts, que l'on fasse justement du recyclage, que l'on répare au lieu de jeter, que l'on soit aussi en capacité de travailler sur des métiers d'avenir, c'est-à-dire de former aussi nos jeunes aux métiers de la transition économique. Je crois que tous ces secteurs sont porteurs et qu'il faut les développer si nous voulons aussi penser l'économie autrement. Parce que la transition économique, le changement de modèle, passera aussi par ce changement justement de paradigme et de travailler beaucoup plus facilement sur l'économie sociale et solidaire, entre autres.
Dienaba Diop, vous l'avez dit tout à l'heure, le Parti Socialiste a fait de bons scores aux élections municipales, il dirige des régions, des départements, mais sur le plan national, votre discours a encore du mal à convaincre. Comment l'expliquez-vous? C'est la déception du quinquennat de François Hollande. Et qu'est-ce qui peut permettre à la campagne d'Anne Hidalgo de décoller?
Je crois qu'au-delà de la déception du quinquennat Hollande, parce que depuis nous avons quand même le quinquennat d'Emmanuel Macron qui a été plus que décevant, si je parle des électeurs qui avaient cru un temps de bonne foi que Emmanuel Macron allait peut-être être une nouvelle incarnation de la social-démocratie, aujourd'hui, à l'heure du bilan, on sait très bien qu'il n'en est rien. Quelqu'un qui baisse les APL, quelqu'un qui vient faire les poches de nos retraités, quelqu'un qui n'a quasiment rien fait sur le plan de la transition écologique, Eh bien, je suis désolée, n'incarne pas cette social-démocratie. Je crois surtout que il nous faut revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire être au plus proche des concitoyens, des concitoyennes, comme nous le faisons au niveau de la région, mais aussi des municipalités et des départements. Et pour que la campagne d'Anne Hidalgo décolle, nous, le pari que nous faisons, c'est celui d'être sur les préoccupations premières des Françaises et des Français, qui ne sont pas l'immigration, et qui ne sont pas non plus ces histoires d'identité, mais qui sont plutôt l'avenir de leurs enfants, le taux, justement, les répercussions de la crise sanitaire sur notre crise économique, et évidemment la qualité des soins et cet accès aux soins. Donc nous travaillons sur des sujets qui sont des sujets phares et qui sont vraiment du quotidien des Françaises et des Français, et nous continuerons à le faire tout au long de la campagne avec Anne Hidalgo.
Est-ce que vous n'avez pas pris un risque en choisissant Anne Hidalgo alors que la droite a choisi d'en faire une cible en dénonçant par exemple la saleté qui règne dans la capitale? Elle risque d'être souvent ramenée à ses critiques.
Vous savez, la droite a cette espèce de petite marotte de saccage Paris, ce qui, je trouve, est proprement indigne d'une campagne politique. Ce que je dis, moi, c'est que quand on est à ce point obsédé par Anne Hidalgo, c'est que finalement, nous n'avons pas fait un si mauvais choix, puisque tous sont inquiets de cette candidature, parce qu'ils savent que au-delà des caricatures et de la saleté qui peut régner à certains endroits dans Paris, qui n'est pas du fait d'Anne Hidalgo, il faut le rappeler, et je rends hommage à tous les services, à tous ces éboueurs qui, tôt le matin, sont là pour réparer les indignités qui sont commises par des citoyens qui ne respectent pas leur environnement. Anne Hidalgo, c'est celle qui, dès le départ, a été écologiste avant l'heure. Anne Hidalgo, c'est celle qui a reçu de nombreux prix pour sa gestion de Paris. Anne Hidalgo, c'est la femme qui aussi est à la tête de l'association des maires des grandes métropoles. Donc je crois que cette espèce de petit angle qui n'est rien d'autre que du cynisme, et parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments de la droite, ne va certainement pas nous décourager, parce que Anne Hidalgo est une femme du peuple, est une femme d'État qui sera la plus à même de défendre notre projet.
Diana Badiop, dans quelques jours aura lieu la commémoration du 17 octobre 1961, le 60e anniversaire d'une répression policière durant laquelle les Algériens sont morts noyés dans la Seine, noyés parce qu'ils ont été poussés dans la Seine par des policiers français. Vous attendez des paroles fortes d'Emmanuel Macron à ce sujet?
Je crois que l'État doit toujours être vigilant et accomplir ce devoir de mémoire nécessaire, notamment sur ces exactions, puisqu'ils ont été quand même victimes d'une répression policière. Et je crois qu'il est important que notre président ait des paroles fortes à l'endroit de nos concitoyens algériens. Il est aussi important que les enfants de ces victimes puissent se sentir considérés, et que nous n'ayons pas peur de regarder notre histoire en face. C'est ainsi que nous ferons en sorte que l'histoire ne se répète pas. Et fort heureusement, aujourd'hui, nous savons que notre police ne commet pas ce type d'exaction, et que nous pouvons leur faire entièrement confiance.
Alors, Diana Badiop, il y a une multiplication de faits divers très médiatisés ces derniers jours. L'agression de Mongeron, l'agression de votre collègue enseignante à Conlaville, des vidéos qui suscitent de fortes réactions émotionnelles. Sur ces questions de sécurité, quelles solutions propose le PS ?
Au niveau du Parti Socialiste, nous refusons d'entrer dans cette espèce de course à l'échalote à laquelle se livrent la droite et l'extrême droite. Les problèmes d'insécurité sont réels. Nous les affrontons d'ailleurs dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions en tant que responsables politiques au Parti Socialiste. Nous, ce que nous disons, c'est que, premièrement, il faut renforcer les effectifs de la police. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsque vous avez des agressions, notamment celle de ma collègue à qui je rends hommage à Comblaville, il faut qu'il y ait des sanctions immédiates de ceux qui ont filmé tout autant que celui qui a agressé. Parce que le problème, c'est la médiatisation aussi qui décuple justement ces différents agressions, parce que les enfants se filment, se disent que comme ça, ils vont pouvoir faire le buzz. Il y a, nos jeunes ne vivent pas en dehors de la société. Il y a une escalade de la violence, ne serait-ce que dans le débat public, on l'a vu, entre responsables politiques, le débat peut vite tourner au pugilat. Je crois qu'il faut aussi donner l'exemple et redire que nous sommes dans une société où nous devons tous vivre ensemble. Il faut sanctionner sans faillir et rapidement tous ceux qui dérogent aux règles, et puis surtout condamner fermement ceux qui ont commis des faits de violence. Pour cela, il faut aussi renforcer les moyens de la justice, car on sait qu'aujourd'hui, il faut attendre entre 6 et 18 mois, sauf cas exceptionnels, quelques rares cas, pour que justice se passe. Et ça, c'est inadmissible.
Est-ce que ces vidéos qui sont diffusées sur des chaînes d'information nationales ne risquent pas aussi d'alimenter les thèses de l'extrême droite ?
Moi, je crois qu'il y a aussi une responsabilité de la part des chaînes d'information en continu et aussi des chaînes nationales. C'est-à-dire que plus vous allez justement mettre en exergue ces différents faits divers, qui sont des faits divers violents qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut sanctionner. Mais je ne crois pas, très sincèrement, que d'être en boucle sur ce type d'événement serve justement à dénoncer simplement ces actes. Il sert plutôt à nourrir toute cette, cette exagération et l'extrême droite s'en saisit en disant, regardez, vous voyez l'ensauvagement de notre population. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui et on ne fait rien. Et quand on a le malheur de relativiser et de dire qu'il faut d'abord agir en prévention et ensuite en réinsertion, on vous traite de laxiste. Donc je crois qu'il y a aussi une responsabilité de la part de nos médias.
Yannick Jadot a parlé d'une jubilation morbide des médias autour des idées d'Éric Zemmour. Vous partagez cette analyse de Yannick Jadot ?
Moi, je partage effectivement le fait que je trouve que c'est indécent, cette place qui est faite à Éric Zemmour. On vous parle d'Éric Zemmour matin, midi, soir. Il faudrait, je crois, compiler toutes les 8 unes. Vous avez eu au mois de septembre 8 unes hebdomadaires consacrées à Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on entretient ce phénomène. C'est-à-dire que je crois qu'il y a clairement une responsabilité des médias dans ce phénomène. Et je ne pense pas que ce soit rendre service à la nation que de le faire. Il faut rappeler ce qu'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un homme qui a été condamné 2 fois pour incitation à la haine. Ne serait-ce que pour cela, cet homme ne devrait pas pouvoir prétendre à la plus haute fonction de l'État. Ensuite, Monsieur Zemmour, c'est quelqu'un qui est raciste, qui ne s'en cache pas, qui tient des propos qui sont proprement indigne. Il l'a fait encore la dernière fois sur le fait que l'éducation nationale puisse avoir envie d'accompagner des élèves transgenres dans leur, justement, dans leur quête d'identité. Il a eu des propos ignobles. Cet individu ne devrait pas pouvoir se prononcer de la sorte sans être sanctionné. Et moi, je crois que ce que font les médias et un certain nombre de personnes, c'est aussi alimenter cette planète autour d'Éric Zemmour, et je crois que c'est très mauvais pour l'unité nationale.
Merci Diana Bahadiop. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.